Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Actes des Apôtres, au chapitre 19, et nous allons lire quelques versets qui nous relatent une situation assez insolite, qui montre bien qu'il y a encore du travail à faire pour l'évangélisation de notre monde et les difficultés que nous pouvons rencontrer, comme l'apôtre Paul les a rencontrées dans cette situation particulière, alors qu'il évangélisait une ville, la ville d'Éphèse. Donc, je rappelle, Actes chapitre 19, verset 23. « Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et il dit, « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion, ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors, on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple, mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel ?» Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, qu'ils s'appellent en justice les uns les autres, et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Voilà, que Dieu nous bénisse. Une lecture que nous commentons peu, il est vrai, mais je voudrais quand même vous dire que c'est pas d'hier qu'il y a des manifestations. La preuve. Alors, nous allons voir quel est l'objet, justement, de pourquoi ce récit se trouve-t-il dans le contexte biblique. C'est parce que nous savons qu'il y a des choses à défendre, des choses d'une grande importance, et quelque part, il y a aussi une position qui est celle des enfants de Dieu, des chrétiens, et qui montre que notre foi, eh bien, a besoin d'être non seulement connue, mais respectée, au moins, pour le moins respectée. Alors, on va dire un petit peu plus sur la question. Paul est l'objet de cette manifestation. Et heureusement qu'il y a eu certainement une conduite et une protection de Dieu en la matière, ou dans cette cas de figure, parce que je pense que Paul ne serait peut-être parti prématurément, comme ça lui était déjà arrivé à Lystre. On l'a retrouvé un beau jour, là, eh bien, lapidé, étant laissé à demi-mort, ou croyant qu'il était mort. Alors, vous savez, il n'y a rien de plus terrible que la foule. Ouais. L'exemple, nous l'avons d'une manière tellement patente, lorsque Jésus est à la croix, vous imaginez cette foule qui, quelques jours auparavant, crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », et puis cette même foule qui se retourne et qui dit « Maintenant, crucifie, crucifie-le !» Alors, c'est toujours dangereux la foule, ça c'est quelque chose d'assez délicat. Le christianisme, hier comme aujourd'hui, en effet, a été souvent, en tous les cas, confronté avec les religions des hommes. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Et souvent, l'ennemi ou l'adversaire premier de la foi dans l'évangile, la foi en Jésus-Christ, ça n'a pas été toujours les athées, ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas, enfin, ni Dieu ni diable, enfin, hein, ni foi ni loi. C'est pas ça, hein. Mais quelquefois, eh bien, finalement, et nous l'avons dans notre histoire, notre propre histoire, dans notre pays, que les plus redoutables ennemis de l'évangile, ça a été très souvent, eh bien, ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas réellement. On pourrait dire qu'il y a deux formes de christianisme. Il y a ceux qui sont véritablement chrétiens de cœur, à travers la conversion, à travers une vie nouvelle, et puis il y a ceux qui le sont de nom. Alors vous comprenez la transmission des choses, hein. C'est certain que le problème du baptême d'enfant est posé là, à ce moment-là. Voilà, si c'est pour faire tout simplement et donner un nom ou une appellation, eh bien, ça ne va pas faire un disciple de Jésus-Christ. Et difficulté est de faire changer, comme c'était du temps de Paul, comme ça l'est encore aujourd'hui, de faire changer les mentalités, les états d'esprit et les coutumes qui sont enracinées. Alors, le propos que je vais tenir n'est pas, en effet, un réquisitoire, hein, enflammé, parce qu'il faut bien dire que nous avons été de cela, où nous nous sommes nous-mêmes opposés parfois, ayant une conception, une croyance religieuse, ou lorsque, eh bien, peut-être nous avons eu des premières réactions lorsqu'on nous a parlé de Jésus, et on nous a dit, mais où ? La réaction a été la nôtre, mais nous avons notre religion, alors pourquoi en chercher une autre ? Alors voilà donc les coutumes qui sont enracinées. Il nous est rappelé simplement qu'à cette époque, il y a eu un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Vous entendez, vous comprenez par là que c'était tout simplement la prédication de l'Évangile, la prédication de Jésus crucifié et de Jésus ressuscité. Parce que, il faut quand même le dire, l'Évangile, inspiré par l'Esprit, c'est quelque chose qui bouleverse les vies et les consciences, et tout le monde n'est pas prêt à dire, comme on le dit, amen, à tout cela. Les gens se cantonnent ou se recroquevillent en disant « mais moi, j'ai ma religion, j'ai ma foi, et c'est tout un contexte qui, eh bien là, est quelque chose de solide, et on se met finalement eh bien en réserve. » Et pourtant, Jésus a dit ces paroles qui devraient mettre tout le monde d'accord, parce que tous les chrétiens connaissent cette parole, quand Jésus nous dit « mais je suis le chemin, alors suivez-moi », c'est moi qui l'ajoute, hein. « Je suis la vérité, alors croyez-moi, je suis la vie, acceptez-moi, parce que nul ne vient au Père, en dehors de ma médiation, en dehors de mon sacrifice. » Alors, s'il y a un seul sujet d'adoration, un seul Dieu, créateur et sauveur, eh bien Jésus se déclare être celui-là. Et c'est l'essentiel, c'est le béaba de l'évangile naturellement, et ça nous l'avons compris. Le message évangélique, je le rappelle, a toujours créé le trouble. Ouais. D'abord, il a commencé par nous, parce qu'il nous a ébranlés la première fois, ou les premières fois. On s'est dit, mais on était confronté avec ce diagnostic de Dieu qui est notre perdition, qui est notre misère morale, notre misère parfois physique, misère spirituelle, en pensant que nous savions tout et que nous ne savions rien. Vous avez un exemple, c'est celui dont il est question là, c'est l'apôtre Paul. C'était un homme qui était mais plus que zélé dans sa foi d'israélite, et puis finalement, lorsqu'il va tomber de son cheval, il va dire « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Ce qui montre bien son ignorance, alors que il avait un tel bagage, une telle connaissance de la foi des Juifs, que finalement il s'est aperçu à ce moment-là, et ses yeux se sont ouverts, qu'il ne savait rien, qu'il ne connaissait rien, qu'il avait tout à refaire. Et il n'avait pas été, finalement, été un négligé dans cette éducation judaïque qu'il avait reçue. Donc, c'est vrai que ça crée un trouble. Mais ce trouble, il est bénéfique parce qu'il nous amène à nous convertir. Il nous amène à penser à Dieu, il nous amène à pleurer devant Dieu, il nous amène à nous repentir, il nous amène à faire un choix. Alors le trouble, eh bien c'est ça. Et le trouble chez les hommes qui se croyaient assurés d'un salut religieux va susciter une vive opposition et une remise en cause. Et quand Paul va commencer à prêcher l'évangile dans cette ville d'Éphèse, qui est une ville, qui était une ville ô combien de magie et d'occultisme, je peux vous dire que là, à ce moment-là, il y a eu un coup de vent. Hein. On pourrait dire un tourbillon, une tornade. Il y a eu un typhon à ce moment-là qui a soufflé sur la ville d'Éphèse. Et on voit les réactions. Dans le verset 24, je le relis simplement, il y avait un homme qui s'appelait Démétrius. C'était un notable, c'était un industriel, nous pourrions dire, bien en vue, considéré, il était orfèvre. Et il fabriquait finalement eh bien, des temples, des petits temples de Diane, en argent ou en métaux précieux, hein, peu importe. Et naturellement, ça faisait la fortune de la ville d'Éphèse parce qu'il y avait un gain considérable. Diane, bien sûr. C'était une idolâtrie aux yeux de Paul. Ça le serait pas moins encore aujourd'hui pour nous, une idolâtrie et un profit, parce que ça faisait fonctionner une formidable industrie qui avait pris naissance autour d'un culte, d'un personnage de la mythologie qui s'appelait Diane, qui s'appelle Diane, ça c'est le terme romain, ou Artémis en grec, vous comprenez. Et nous voyons qu'elle était principalement la déesse de la fécondité. Alors qui dit fécondité, bénédiction, sur la famille, sur la patrie, etc., etc. C'était vraiment la grande déesse de ce temps, Diane. Et nous voyons qu'elle avait un haut lieu à Éphèse, où il y avait là des milliers de personnes qui venaient l'adorer, qui venaient faire des sacrifices, qui venaient faire toutes sortes de choses. Et néanmoins, c'était quand même, pour Paul, qui était un homme éclairé, eh bien, véritablement un culte à un faux dieu. Dans ce temple renommé, eh bien, trônait la statue de cette femme, parce que c'était donc, elle était représentée avec des multiples saints, hein, qui étaient là, symbolisant la fertilité de la nature. Il y a une dizaine d'années, nous avons eu l'occasion d'aller à Éphèse avec mon épouse, et nous avons été au musée d'Éphèse. Et elle trône. Alors, c'est certainement une représentation. Hein, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'elle est là, en plein milieu du musée, et on voit bien que quand on regarde un petit peu et quand on se renseigne, elle tenait une place extraordinaire. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, si vous allez à Éphèse, vous n'allez pas voir grand-chose. Enfin, si, il y a quand même des vestiges, mais il reste plus que de ce temps-là, eh bien, une colonne, tout simplement pour ceux qui, voilà, seraient intéressés par la question. Et il nous est même dit dans notre texte que on tenait comme une vérité absolue, tout simplement, qu'elle était tombée du ciel. Son simulacre n'est-il pas venu du ciel? Voilà. Ça, c'était tout à fait de la mythologie. C'est tout à fait le caractère même de la mythologie. Les dieux qui descendent sur terre pour soit châtier les hommes ou les bénir, enfin, selon les humeurs du moment, hein, naturellement. Alors, ça, c'était la foi, ou la croyance plutôt, je ne veux pas mettre le mot foi, mais la croyance des hommes de ce temps, et Paul a été envoyé par Dieu pour annoncer l'évangile dans ce contexte. Imaginez-vous que ça devait pas être très facile. On devait dire, mais dis donc, ton Dieu, nous on le connaît pas. Tu sais, tu nous parles d'un homme qui est mort sur une croix, il est mort pour la rédemption du monde, mais nous, nous avons plus. Nous avons Diane, et regarde un petit peu ce qu'elle peut représenter. Et elle apporte la bénédiction, elle apporte la fécondité, c'est la fertilité de notre ville, de notre pays, de notre monde. Alors, pour gagner beaucoup d'argent, eh bien, des orfèvres s'étaient mis en syndicat, on pourrait dire, et ils fabriquaient des répliques en représentation, en miniature, qui se portaient en amulettes. Vous savez, il y avait, on pouvait en mettre un petit peu partout, mais ils portaient sur eux comme, en quelque sorte, des porte-bonheur ou des garde-malheur. Voilà. Alors, remarquez, aujourd'hui, ça se voit encore, hein, sous une autre forme. Hein. C'est peut-être pas Diane, mais ça peut être autre chose. Et c'est cette réaction des hommes, cette réaction superstitieuse en disant « Mais je suis protégé, il ne m'arrivera rien ». alors qu'on le décline sous Saint Christophe ou tous les saints du paradis, tout ce que vous voudrez, mais ça, c'est un réflexe humain. En quelque sorte, on se met là, derrière un dieu protecteur, un dieu qui est, en effet, en quelque sorte, un dieu patron. Excusez-moi l'expression, mais vous avez vu, dans chaque ville, il y a des patrons. Dans chaque métier, il y a des patrons, etc. C'est le mot, hein, vous retenez ce que vous voulez de cela. Mais c'est une protection. On se met, finalement, eh bien là, en garde contre ceci et cela. Et on se dit que si on fait ça, eh bien, on ne craint rien. Comment nous appellerions ça? Tout simplement, eh bien, de la superstition. Mais allez le dire que c'est de la superstition. Ça, c'est difficile. Et Paul a tenté justement de faire passer donc cela, superstition. Et il y avait un gain considérable, parce que ce n'est pas le fait seulement de la démarche de cette croyance dans un Dieu qui n'existe pas, mais avec beaucoup d'argent. Et depuis toujours, ça a été ça. Hein. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans une critique ou un primaire de ceci et cela, mais on est dans l'évangile, on va rester dans l'évangile. Et on sait très bien que dans la parole de Dieu, il est question de cette association, dévotion, piété, croyance, superstition, toujours avec l'argent. Nous avons le cas de Simon le magicien. Hein. Si vous m'imposez les mains et que je reçoive le Saint-Esprit, je vous donnerai de l'argent. Waouh, quelle horreur. Pierre et Jean ont vraiment réagi à ce moment-là. La crédulité, parce que c'est le mot qu'il faut dire maintenant. La crédulité, il y a trois choses. Il y a la crédulité où on croit tout, l'incrédulité où on croit rien, et il y a au milieu la foi en Dieu, dans ce Dieu vivant, la foi spirituelle. Alors, dans cette mouvance entre les deux, eh bien, la crédulité a toujours profité à ceux qui ont su l'exploiter et de faire de l'argent. Et faisons attention, même que dans nos églises, nous en arrivions là. Bon, qu'il y ait et que ça garde de la mesure, hein, c'est tout à fait normal. Mais moi, quand je vois quelque part des choses où on se retrouverait peut-être, comme Jésus l'a constaté, auprès des marchands du temple, vous savez comment ça s'est passé, les pauvres. Hein. Là, ils n'ont pas été très heureux, hein, parce que il nous est dit que Jésus a bouleversé un petit peu tout cela, hein, tout ce mercantilisme, pourrions-nous dire. Et ça a toujours été, eh bien, un créneau de profiteurs ou de gens qui ont profité de cela pour faire fortune sur le compte de l'espérance de l'humanité, de l'homme. Sur le compte, tout simplement, de la crainte. Donc ça, on a voulu finalement parer et puis ça rapporte. Ou la maladie des autres également, les infortunes du monde, en disant, bien voilà, nous avons la réponse, mais contre espèces sonnantes et trébuchantes. Jésus s'est courroucé contre ça, parce qu'il a dit une chose, « Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. » Et ça, c'est important. En quoi qu'il en soit, eh bien, ce qui peut être fait, c'est que Paul va amplifier la pensée de Jésus en disant, « Bien, si vous donnez, mais faites-le de bon cœur et avec joie, et que votre main droite ne sache pas ce que fait votre main gauche. » Ça, ce sont les principes élémentaires de l'évangile. Mais que la religion, me semble-t-il, ou que les religions, d'une manière ou d'une autre, eh bien, ont su détourner à leur profit. Voilà, je passe. Le besoin d'être rassuré et protégé, d'une façon ou d'une autre, eh bien, a amené ce genre de situation que dans l'Église, ou que même dans l'Évangile, on a appelé la simonie, en pensant ou en se référant à Simon le magicien qui voulait donner de l'argent pour avoir finalement les dons de Dieu, tout simplement. Voilà. Le verset 25 nous dit ceci, quand on va un peu plus loin. Donc, notre fameux Démétrius rassembla ceux qui avaient le même métier que lui, et il a fait un discours, naturellement, c'était... Voilà. Il a dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Ça, c'était évident, hein. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Imaginez-vous la bombe. Imaginez-vous un peu le souffle qui a pu découler de ce que Paul prêchait. Paul prêchait Jésus, mais il prêchait un Dieu vivant, parce que ressuscité. Pas un Dieu de plâtre, pas un Dieu d'or ou d'argent, mais un Dieu qui est un Dieu réel, parce qu'il est, il est la vie. C'est le Dieu vie, celui-là. C'est vraiment le Dieu de la vie. Donc, nous l'avons dit et je le souligne, une industrie florissante en péril, qui est menacée par une concurrence, si vous me permettez l'expression, inattendue. Ça, ils s'y attendaient pas. Ils pensaient peut-être qu'il y avait peut-être d'autres choses qui pouvaient faire concurrence à Diane, mais là, ça, c'était inattendu. Parce que ça touchait au cœur même du commerce, au cœur même de cette industrie, la raison même pourquoi des gens venaient en foule pour adorer Diane. Il y avait là toute une affaire. C'était des idées nouvelles et révolutionnaires. Je voudrais quand même préciser une chose, parce que quelquefois on n'y fait pas trop attention. Mais quand Jésus est venu, ça on ne le note pas, on connaît l'histoire de Jésus, on connaît l'histoire avant Jésus, et on se dit, mais vraiment Jésus a été le plus grand de tous les révolutionnaires. Il a fait exploser les tabous, il a fait exploser les us et coutumes inutiles, les traditions, même il a touché à certaines choses qui, à l'origine, avaient été données par Dieu au peuple d'Israël, mais qui étaient devenues la routine, qui étaient devenues, en effet, quelque chose qui n'avait plus lieu d'être, parce que ça se faisait mécaniquement, ça se faisait sans penser, sans le cœur. Jésus dira, mais ils m'honorent d'élèves, mais leur cœur est éloigné de moi. Et quand Jésus est venu, il a donné un coup de souffle, à tel point que finalement, ceux qui étaient les gardiens du temple, ils se sont dit, il faut absolument l'éliminer, il faut le crucifier. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, parce que ça touchait beaucoup de choses. Le statu quo, Jésus a donné un coup de pied dans la fourmilière, excusez-moi. Et il a touché des choses qui aujourd'hui, nous sommes au bénéfice. Ah ouais, sur la notion de l'homme libre et de l'esclave, sur la notion et la position de la femme dans la société. Je peux vous dire que c'est quelque chose, si vous lisez l'évangile de Marc, vous verrez que c'est l'évangile qui a été écrit particulièrement pour l'affranchissement des femmes. Faut regarder tout ça, c'est intéressant de faire l'exégèse des textes bibliques. Formidable. Et on peut dire que Jésus a été le grand révolutionnaire de tous les temps. D'ailleurs, des révolutionnaires, il y en a eu à travers dans le monde, à travers tous les pays, qui se sont illustrés. On a gardé quelquefois, souvent, la mémoire de gens qui étaient des gens qui faisaient couler le sang. Ben oui, mais Jésus, lui, il n'a pas fait couler le sang. Il a fait couler son sang. C'est tout à fait la différence. Pour sauver le monde. Et aujourd'hui, depuis 2000 ans, il y en a eu des Robespierre, il y en a eu des je ne sais quoi, dans tous les temps. Mais une chose qui est certaine, les grands révolutionnaires de l'histoire, mais aujourd'hui, ils sont rentrés un petit peu sur les étagères. Alors que Jésus, on en parle encore, on le célèbre, on le loue, on l'adore encore aujourd'hui. Révolutionnaire, Jésus. L'évangile, bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise. Mais comment une bonne nouvelle peut déclencher la colère? Comment déclencher la haine? Que peut déclencher des choses inattendues? Alors, Démétrius dira, mais notre bien-être, qu'est-ce que nous allons devenir? On n'avait pas créé actuellement le pôle emploi, vous comprenez? C'est inventé plus tard? Alors, notre bien-être dépend. Vous savez, dans ce genre de démarche humaine, derrière un manteau religieux ou un vernis religieux, peu de cas est fait à l'âme, à la justice et à la vérité. Ah oui, on se sert de tremplin de ces choses, mais pourvu que le portefeuille marche derrière ou fonctionne, mais l'âme des hommes, le salut éternel des hommes, le bien des hommes, mais le bien, le vrai bien, le juste bien. Et on s'occupe pas si Dieu y trouve son compte. Alors Jésus a donné la leçon, je vous l'ai dit dans le temple. On ne s'occupe pas si finalement, les choses sont faites selon la volonté de Dieu, mais l'important c'est l'argent. Ah, quel monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. On ne parle que de ça. Les grands temples sont plus ces basiliques ou ces cathédrales que nous avons, elles sont là, ce sont des pierres. Mais les grands temples de la société moderne, ce sont toutes les banques. Enfin, excusez-moi, vous pensez ce que vous voulez, mais j'espère qu'il n'y a pas de banquier au milieu de nous. Enfin, il y en a des bons aussi. Voilà. Mais c'est ça. Regardez un peu cette fascination. Mais alors, quand ce sont des affaires qui sont communes ou courantes à la vie des hommes, on peut comprendre que, l'argent est nécessaire. Mais quand on se sert de la religion pour ça, alors là, ça prend une autre proportion. Ah, le verset 26. Regardez ce Paul, dit Démétrius. C'est lui qui a mis le bazar. C'est lui qui est en train de nous menacer. C'est un chef d'accusation, d'inculpation. Et le délit de Paul, c'est de persuader les gens, d'erreurs manifestes parce qu'ils rendent un culte qui n'est pas finalement celui de Dieu. Et c'est un culte qui va avoir des conséquences pour cette industrie, pour cette ville d'Éphèse. C'est un message dangereux que le message de Paul, c'est un message scandaleux de dire la vérité. Imaginez-vous. Vous savez qu'aujourd'hui, dans certaines formes de christianisme et sur d'autres latitudes, nous avons des frères missionnaires avec leurs familles qui sont dans des pays musulmans, dans des pays bouddhistes ou hindouistes. Hein, je pense aux Indes, hein, nous avons des orphelinats là-bas et puis dans d'autres parties du monde. Ben, vous savez qu'il faut faire très attention. Hein, parce que, et surtout les autochtones, ceux qui sont devenus chrétiens d'une religion, voilà. Et je peux vous dire qu'il leur faut pas de cadeaux. Hein. Bénissons le Seigneur dans un pays où il y a le respect de la conscience, encore. Ouais. Mesurons cela. Hein. Et moi, ça me fait toujours penser, je le dis, hein, mais c'est pas un reproche, mais c'est une constatation de fait. Mes frères et mes sœurs, profitons encore des temps de liberté, où nous avons la liberté de conscience de venir encore dans les réunions, parce que qu'est-ce que ça sera dans nos églises quand il y aura la restriction et qu'il y aura l'interdiction? Ça peut venir, hein. De toute façon, ça viendra, parce que le livre de l'Apocalypse nous le dit, hein. Ça viendra. Et peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, il y aura la représentation. Nous n'avons pas l'huile dans notre lampe. Hein. Et qu'est-ce que l'on pourra dire? Mais aller en chercher auprès de ceux qui en vendent. Mais ceux qui en vendent auront disparu à ce moment-là. Bénissons le Seigneur de ce que nous pouvons encore nous rassembler en culte ce matin. Et ne négligeons pas cela. Parce que peut-être il arrivera un moment où nous n'aurons plus la possibilité de le faire en tous les cas sous cette forme. Alors Paul disait, les dieux fabriqués, d'ailleurs le mot veut bien le dire, hein, les dieux fabriqués sont des faux dieux. Sont des faux dieux. Alors nous allons vérifier ça pour savoir si véritablement Paul ne se trompe pas. Hein, c'est toujours intéressant, hein, mais et moi je crois qu'il ne se trompe pas. Écoutez, je vais rappeler un des textes les plus connus. Vous allez le reconnaître. Écoutez bien. Dans le chapitre 5 de Deutéronome, il est dit ceci au verset 6 et... Voilà. 6. « Je suis l'Éternel ton Dieu » qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc d'un état d'esclavage à un état de liberté. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut et dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des enfants jusqu'à la troisième génération, pour ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui m'aiment. Bon, ça c'est quand même, ça fait partie des lois fondamentales et essentielles dont toutes les nations à travers tous les temps se sont inspirées. Après la suite, hein, naturellement. Eh oui, qu'est-ce que les hommes font aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on peut tirer de cela? Proclamer la vérité, c'est délivrer les hommes de la superstition, de l'obscurantisme, voire même de l'occultisme. Si nous nous souvenons d'où nous sommes venus, et pour certains d'entre nous, eh bien, nous tenions pour vérité des erreurs grossières, des choses qui étaient abominables aux yeux de Dieu. D'ailleurs, Dieu le dira, hein. Tout ceci, eh bien, ce sont tout contact avec le monde magique, le monde spirituel mauvais, ténébreux, c'est une abomination devant Dieu, ça nous le savons. Dire la vérité, c'est avoir des ennemis. Normalement, ça ne devrait pas être dans la conscience normale d'un individu, dire la vérité, eh bien voilà, hein. Comme au tribunal, hein. Je jure de dire toute la vérité qu'il y a rien que la vérité. Ça semble tellement commun, cela. Mais dire la vérité, cette vérité de l'Évangile, la vérité de Jésus-Christ, eh bien ça peut susciter des ennemis, parce que c'est dénoncer l'intérêt personnel qui s'abrite derrière, souvent, certains paravents de la religion. On appelle ça tout simplement de la religiosité, et puis ça passe. Les apparences de la piété, ou les apparences d'une croyance populaire. Si c'est pas religieux, c'est populaire. Un zèle dévot, par exemple. Aujourd'hui, combattre les tares de la société à travers l'immoralité, à travers l'alcoolisme, à travers finalement eh bien la drogue, le jeu, la frénésie et les divertissements qui sont parfois, comment dire, amoraux, disons cela seulement, eh bien c'est s'attaquer à un certain commerce honorable. Et permettez-moi de dire, c'est souvent juteux et très profitable. s'est même passé pour un rabat-joie. Et vous savez que l'Église ou les chrétiens de l'Évangile, quelquefois nous sommes quelquefois considérés comme des rabat-joie. Ah ben ils savent pas vivre. Ah ben oui. Enfin écoutez, il y a des choses où nous pouvons vivre, hein, et que nous savons vivre naturellement. Et quelquefois pour traite, Paul passait pour un renégat par rapport à sa nation et comme traite, parce que quelque part, eh bien, on peut dire non. Et un chrétien, c'est dire oui, et il doit savoir aussi dire non à certaines choses. Maintenant, sans jugement et sans condamnation, parce que nous ne sommes pas appelés à maudire, nous sommes appelés à bénir. Et nous avons quelque chose de formidable pour bénir les hommes, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous, même s'ils sont remontés contre nous, c'est de pouvoir leur apporter les messages de l'Évangile, parce que ça sera toujours une bénédiction, me semble-t-il. Alors il disait que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Toucher ou dire le contraire à ce qu'on a l'habitude de vénérer, eh bien, de considérer comme sacré et qu'on adore, eh bien, on devient un profanateur. Vous savez, quand Moïse, il a mis le doigt, enfin, oui, quand il est descendu de la montagne et qu'il a vu ce que les Israélites avaient fait alors qu'ils recevaient les oracles de Dieu, qu'ils recevaient la parole de Dieu, les tables de la loi sur le mont Sinaï, quand il est redescendu et qu'il a vu l'horreur qui se passait dans les plaines, à ce moment-là, dans la plaine, avec la construction du veau d'or, c'était quelque chose de terrible. Ah oui. Et vous savez par qui est venu le scandale du veau d'or? Par la représentation, la première représentation de la religion d'Israël, c'était Aaron. Ça laisse penser à beaucoup de choses, vous comprenez? Parce que je crois qu'il y a une grande différence entre la foi spirituelle, la foi en Jésus-Christ. Elle est spirituelle, elle s'inspire de l'Esprit de Dieu, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adorent en esprit, en vérité. Et puis il y a la religion des hommes. Soit-elle chrétienne, mais si elle n'est pas dans le cadre de ce que Jésus nous enseigne, alors à ce moment-là, eh bien, c'est quelque chose. Et Paul est considéré comme un profanateur dans ce cas. Le danger qui en résulte, nous l'avons lu, que Diane soit tenue pour rien, et comme la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie, dans le monde entier, soit réduite à néant. Eh oui, naturellement. Je dirais business, business. Si on peut voir cela. Et vous savez, on peut considérer la chose, hein, de cet évangile de la prospérité. C'est pas l'évangile de Jésus-Christ, mes frères, mes sœurs. J'aurais quand même le signaler. Quand on mélange la foi et l'argent, on tient et on manipule qui on veut. Ah oui. Et ça, c'est grave. Parce que c'est d'une grande gravité devant Dieu, me semble-t-il. Attention, nous avons besoin de savoir nous défendre. Sinon, eh bien, il peut y avoir des conséquences très graves. Il y a tout un pan d'activité lucrative, et c'est le cas, parce qu'il ne faut pas y regarder de trop près, où la morale, il n'y a pas droit de citer. On appelle ça de la déontologie professionnelle. Eh bien, moi, je voudrais dire que dans chaque corporation, il y a une déontologie du métier que l'on exerce. Et il doit y avoir une plus grande déontologie encore quand il s'agit des gens qui servent Dieu, des hommes qui servent Dieu. On ne fait pas n'importe qui. Nous ne sommes pas les maîtres, nous sommes les serviteurs. Il ne faut pas confondre. Il ne faut surtout pas inverser les choses. Diane tenue pour rien, réduite à néant. Ben oui, mais c'est normal. C'est normal parce que l'idolâtrie, ça veut dire image vaine, donc vanité, donc néant. Elle était tout à fait à sa place. Mais ce que les hommes ne savent pas, c'est qu'ils... C'est ça la signification du mot idolâtrie. Quand vous faites l'étude du mot, eh bien vous verrez, ça veut dire image vaine, image stupide. Image sans raison. C'est pour ça que le mot « au lieu », vous avez souvent entendu ça dans l'Ancien Testament, le mot « au lieu » en hébreu, c'est « bahama ». Bahama. Ça veut dire celui qui va quelque part où il n'y a rien. C'est dans sa tête, c'est dans son esprit. Il nourrit ses yeux, il nourrit ses oreilles, mais bon, voilà, c'est tout. C'est l'essence qu'il nourrit, c'est le côté charnel, mais il n'y a rien du tout. Alors, on aimerait peut-être savoir ce que Dieu pense de tout ça, hein. Ça serait intéressant. De toutes ces mythologies qui se sont greffées, qui sont infiltrées, eh bien, quelquefois, le christianisme, ces légendes, ces croyances populaires. Ah, Jérémie nous en parle, j'ai pas le temps de faire le commentaire de ces textes, mais vous les retrouverez dans Jérémie chapitre 10. Et là, il nous est parlé, justement, que l'homme fabrique son idole. Il la met chez lui. Et son idole, c'est tout simplement, il va dans la forêt, il coupe un arbre. Puis de cet arbre, il va le tailler selon, finalement, ses goûts artistiques, etc. Et avec le même bois, il va chauffer sa cheminée. Et avec le même bois, il va se faire une idole en disant, bénis-moi, sauve-moi. Vous vous rendez compte? Non, mais le raisonnement est pour amener les hommes à réfléchir à ce qu'ils font, vous comprenez? C'est le même bois. Et il va le parer avec des colliers, il va le parer, là, il va lui donner la première place dans sa maison. C'est ce que l'on a appelé les pénates, vous savez. Hein, dans le culte des Romains, c'était ça, ils avaient des petits objets partout. Remarquez, ça existe encore, hein. Dans certaines maisons où on a cette protection, ceci et cela, et voilà. Alors, verset 28. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Ne touchez pas à mes illusions. Voilà le grand problème. Ne touchez pas à mes illusions. Illusion d'être entendu de qui? Dans le cas présent, Diane, c'était du plâtre. Ou c'était je ne sais quel mortier qui faisait qu'elle était recouverte d'argent ou d'or ou peu importe. Et ça, c'est la couverture. Mais l'essentiel, c'était pas ça. C'est l'essentiel, c'était autre chose. Voilà. Alors on prie. L'homme se prosterne. C'est la prière du supporter, vous comprenez? Quelquefois, les supporters sont déchaînés, hein, vous en savez quelque chose. Hein. Mais entendus quand même, et je vais vous dire pourquoi ils sont entendus quand même. Le manipulateur des foules, l'excitateur des masses, l'exploiteur invisible des sentiments surchauffés, eh bien, c'est le diable. Ouais. Parce que lui, il trouve son compte. Dieu a dit, tu ne seras pas idolâtre. Le diable dit, ben moi, je vais vous donner de l'idolâtrie autant que vous en voulez, et vous allez voir, ça va fonctionner. Ça marchera. Parce que l'homme a cette propension, depuis la chute dans le jardin d'Éden, d'écouter davantage le mensonge que la vérité. Et c'est bien le drame dans cette affaire. Et ces sentiments surchauffés qui génèrent la haine, la colère, l'émeute, les casseurs et nous pourrions dire les saccageurs déchaînés, parce qu'ils défendent l'erreur. Ils défendent l'erreur avec une conscience, nous pourrions dire intacte, parce qu'ils sont persuadés que c'est la vérité. Eh bien, je dis que les défenseurs de l'erreur, ou le défenseur ou la défense de l'erreur ne peut déclencher que des passions, le fanatisme et l'intolérance, c'est-à-dire les choses les plus extrêmes. Et vous savez, les guerres de religion, c'était quoi? Protestants, oui, protestants, parce qu'ils protestaient. Ils protestaient contre toi. Contre quoi? Ils protestaient, justement, de toute cette idolâtrie qui existait à un certain siècle et qui subsiste malheureusement, c'est vrai. Alors, celui qui échauffe incognito les esprits des hommes et les pousse à l'affrontement, au lynchage, en crucifiement, c'est ce qui s'est passé pour Jésus, hein, à toutes les folies collectives où jamais personne n'est responsable. L'anonymat, j'ai rien fait, je suis pas responsable, je suis pas coupable naturellement. Quel travail dans les ténèbres, quel travail, mais quelle manipulation de la crédulité des hommes. C'est terrible cela. C'est l'apôtre Paul qui nous dit que derrière cette adoration, il en parle dans 1 Corinthiens, chapitre je ne sais plus lequel, chapitre 14 ou chapitre 10, pardon, il nous dira, mais ce que l'on adore, si on n'adore pas Dieu, mais on adore des démons, et les démons nous écoutent, hein. Enfin pour nous, mais ils écoutent ceux qui sont en dévotion, et ils pensent que parce que c'est le monde de l'esprit, eh bien, c'est le monde de Dieu, mais le monde de l'esprit, c'est pas que le monde de Dieu. Il y a un surnaturel divin, il y a un surnaturel diabolique. Puis je passe très vite également, le verset 29, on y arrive. Et toute la ville fut dans la confusion, ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant Gaïus et puis tous les amis de Paul, ils ont tous été entraînés. Voilà un bel exemple typique d'intolérance religieuse, qui révèle une certaine et une incrédulité caractérisée. Ils ne veulent rien savoir que Diane. Et ils crient, Diane, eh bien, la déesse d'Éphèse. Oui. Aujourd'hui, les gens aiment bien crier, hein. Dans les stades, dans le sport, dans ceci et cela, hein. On est en train de, on a nos idoles, hein. C'est pas seulement des idoles religieuses, hein. Et quelquefois, vous savez, il y a des débordements, des déchaînements, on le voit, tant en politique que dans le plan de social ou autre chose. Et particulièrement dans le sport. Mais allez dire aux gens. Allez le dire. C'est pas évident. Voici aussi comment les foules peuvent être soulevées par un vent de folie. Et notre société n'est pas à l'abri de tout cela. Frappée d'un aveuglement collectif parce que l'idolâtrie est quelque chose d'irraisonné. pouvez toujours dire, vous pouvez dire, mais voilà, ceci, cela, etc. Ça ne passe pas. Il y a comme un aveuglement. Et souvent fanatisé. C'est terrible. Quand on voit l'Allemagne des années 30, on se dit, mais comment peut-on lever un peuple, ou le Japon également, et puis il y en a eu d'autres. Oh, puis on a eu notre part, nous aussi, certainement, à un moment ou à un autre, de cet aveuglement qui amène des choses abominables. Alors pour les contestataires, quel témoignage évident rendent-ils de leur confiance qu'ils placent dans une déesse, eh bien là, vénérée? Quel est le témoignage? Témoignage d'un aveuglement et d'une folie, tout simplement. La vraie foi a pour raison, a pour signe, qu'elle n'a pas besoin de défenseurs vociférants et hurlants. On n'a pas besoin de crier que Dieu est Dieu, il peut se défendre tout seul. C'est à travers notre vie, à travers les fruits de Christ en nous. On n'a pas besoin de le crier, ou alors on va passer pour des... Bah d'ailleurs, il y en a certains qui l'ont essayé, et puis finalement, ça discréditait le témoignage et le message de l'évangile. Alors on n'a pas besoin de ça. La foi véritable est tranquille. Elle est tranquille dans une chose, dans le triomphe final de sa cause et de la vérité. Il nous est dit que Jésus, dans le Matthieu chapitre 12, il nous est dit qu'il n'a pas cassé le roseau qui était plié. Il n'a pas éteint le lumignon qui fume. On n'a pas entendu sa voix dans les rues. Et pourtant, sa voix, elle est venue jusqu'à nous, 2000 ans après. Ça, c'est le témoignage chrétien que nous devons avoir, et pas un témoignage de fanatique. Les uns criaient d'une manière, les autres criaient d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Bien. Là, moi, je trouve que c'est une phrase qui est assez, elle est truculente, parce que, ils crient, ils savent pas pourquoi ils crient, et tout, parce que tout le monde crie, ça, c'est le problème. Vous savez, du conformisme. On veut pas être différent des uns. Alors, on fait comme tout le monde. Eh bien, faisons attention, même dans nos églises, de ne pas faire comme tout le monde, parce que quelquefois, il peut y avoir aussi des choses qui ne sont pas toujours dans l'esprit. Et si nous crions avec des gens qui ne sont pas dans l'esprit, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on risque de se retrouver dans une drôle de situation. Situation peut-être pour nous, mais une situation encore plus grave pour la cause et la crédibilité de l'évangile. Faisons attention, soyons modérés. On en a parlé l'autre jour, Jésus était le modèle parfait de l'équilibre. Alors, ils se sont mis à crier naturellement, on l'a vu, et ça semble comique, de voir tous ces gens qui hurlent. Ce qui est faux est indéfendable. Ouais. Ça ne résiste, et quand c'est indéfendable, ça ne résistera jamais à la contradiction. C'est qu'à un moment donné, on n'a pas besoin d'essayer d'arracher l'ivraie du bon grain. C'est le Seigneur qui va le faire. Ah, quelquefois, il y a des chrétiens qui se sont dit, mais il faut y aller. Ah, il faut essayer de défoncer la porte. Parce que c'est pas normal, et on est là, et puis il faut le dire. Ben oui, mais vous savez, il y a une chose. Au lieu de le dire aux hommes, si nous avons l'autorisation de le faire et que Dieu nous ouvre les portes, il faut le faire. Mais, vous savez, il vaut mieux parler au Seigneur que de parler quelquefois à l'horizontale. C'est peut-être plus recommandable. Alors, ils crièrent pendant plus de 2 heures. Pendant 2 heures, ils se sont mis à hurler « Diane et la déesse d'Éphèse ». Mais ça, c'est une preuve patente aussi de la sourdité de Diane. Mais comment pouvait-elle entendre, puisque c'était un morceau de bois, puisque c'était du plâtre, c'était quelque chose comme ça. Et son impuissance absolue, rétablir la vérité dans un monde de croyances superstitieuses, acceptée, crue, vénérée comme des certitudes divines, c'est dramatique. Ouais, c'est dramatique. Et il y a déjà longtemps que le prophète Ésaïe dénoncer cette étrange dévotion spirituelle qui était une contamination étrangère à la foi de Dieu. Dans Ésaïe, il nous est dit cette parole, je lis simplement, je restitue le texte rapidement. Ésaïe chapitre 8, écoutez, vous le connaissez. Il est dit ceci au verset 19. Si l'on vous dit, parce que ça vient toujours d'ailleurs, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui pousse des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Il n'y aura point d'aurore, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, il en sera comme d'un pays qui est en errance, qui vagabonde, qui va de droite et de gauche, si l'on ne revient pas à la loi et au témoignage. Écoutez, la parole de Dieu, elle est là, et encore faut-il bien l'interpréter. Nous ne sommes pas appelés à l'interpréter d'une manière légaliste, mais nous sommes appelés à l'interpréter en esprit, dans la vérité, selon ce que Dieu veut nous donner de comprendre. Ouais. Parce qu'avec la loi de la parole de Dieu, on peut faire beaucoup de mal aussi. Hein. Attention. Mais si nous nous laissons remplir du Saint-Esprit avec ces dispositions d'amour que Dieu va remplir, dont il va remplir nos cœurs, alors à ce moment-là, à la loi et au témoignage, il faut revenir à la parole. Et vous savez, la grande dégradation du christianisme historique, que ce soit dans le monde d'une manière ou d'une autre, le monde que nous connaissons, et même chez nous, eh bien c'est parce que justement on a abandonné la parole de Dieu. Tant que nous garderons la parole de Dieu, qu'elle sera la référence et qu'elle sera l'autorité de notre foi, eh bien nous pourrons marcher et nous pourrons rester encore dans cette présence et cette promiscuité, cette intimité de Dieu. Et Paul d'ajouter ceci, il pose un diagnostic sur le mal et ses conséquences pernicieuses de l'esprit humain quand il dira « ils ont adoré la créature au lieu du créateur ». Ouais, ils se sont fait des images, des quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux, mais ils ont abandonné finalement ce qui est l'essentiel, le créateur, au profit de la créature. C'est pour cela que cette tragique méprise a amené Paul à écrire dans Éphésiens au chapitre 4, il dira « Ne soyez pas comme les païens qui, quelque part, sont étrangers à la vie de Dieu et dont l'esprit a été rendu sans intelligence et à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Faisons attention à cela. Je termine. Voilà comment on a dénaturé le christianisme d'origine et réduit à un culte au culte. On l'a bien souligné, de crédulité idolâtre. Alors nous allons affirmer bien fort et fermement, comme Jean le dira dans son épître, « Nous savons que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu. » Ouais, c'est pas la Diane qui est descendue du ciel. Hein, « Qu'il est venu et qu'il nous a donné l'intelligence et a commencé par le discernement, l'acuité spirituelle pour connaître le véritable. » Et il ajoutera à Jean, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, il est nommé, et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et vous savez ce que Jean ajoute après? Une petite phrase sibylline, une petite phrase qui nous étonne après avoir dit que c'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il dira, petits enfants, gardez-vous des idoles. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Nous allons simplement prier et... que Dieu nous bénisse les uns et les autres, qu'il bénisse aussi la réunion cet après-midi. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Nous voulons rester, Seigneur, autant que faire se peut, dans l'humilité, dans la modestie, et ainsi prendre en considération que ta parole, eh bien, elle nous enseigne ce que toi tu veux des hommes, ce que tu attends de chacun d'entre nous, et que nous restions, Seigneur, véritablement bien assis sur ta vérité, pas la nôtre. C'est pas la vérité des églises évangéliques. C'est la vérité, Seigneur, de Jésus-Christ. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Alors accorde-nous ta grâce, aide-nous. Tu nous bénis les uns et les autres, tu nous nourris. Puis, par-delà ce que nous avons entendu ce matin, nous te demandons que cette parole soit portée bien loin, et même tout près, parce que nous savons, Seigneur, que le cœur de l'homme est souvent, en effet, naturellement, et bien porté à cette fausse adoration. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, parce que nous savons que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Tu bénis également, Seigneur, la réunion cet après-midi. Merci pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.